Voilà, donc nos invités, eh bien, je les ai trouvés il y a longtemps et retrouvés il n'y a pas longtemps par contre pour un vernissage d'une exposition. Et peut-être que Philippe Timmerman, qui a mis en place cet événement, va nous parler de l'arbre de réparation. Et puis nous aurons aussi l'occasion de donner la parole à Bernard Dupont, qui n'est jamais très loin de ce qui se passe en photographie en région actuellement. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est son regard sur la photographie en tant que technique au travers du temps. Alors on fera peut-être une série d'émissions là-dessus, Bernard, hein, puisque la photographie dans notre région, on peut peut-être dire qu'on est un peu le berceau de la photographie, l'air de rien.
L'air de rien, l'air de tout, oui.
L'air de tout, hein.
On a quand même des signatures célèbres dans cette discipline, ouais.
Donc voilà, la région de Lille, qui était peut-être un peu plus équipée que d'autres en matériel, parce qu'il y avait des laboratoires, notamment chimie, etc.
Notamment chimie, notamment dans le domaine de la physique, car la photographie à Lille est de discipline à cette époque. Et il s'agissait quand même rien moins que de fixer des images de ce que l'on voit. C'est pas simple.
Oui, alors au travers du temps, on a eu différentes techniques qui se sont mises en place. Certaines ont eu un certain succès, oui. D'autres ont été abandonnées assez vite, mais parfois ont été reprises depuis. C'est ça qui est drôle.
Oui. La première technique qui semble s'être imposée, c'est le daguerréotype, né en France. En France.
Ouais.
Quelques jours avant le procédé anglais. Mais le daguerréotype a eu son titre de gloire pendant une bonne dizaine d'années. Et progressivement, c'est un Lillois, Louis-Désiré Blanc-Carrévrard, qui a repris le système anglais et a développé l'idée qu'on pouvait, même à partir de photographies, non pas avoir un exemplaire unique, mais de produire plusieurs exemplaires de la même, de la même image.
Mmh. Est-ce qu'il a un nom dans les rues de Lille, ce Blanc?
Non.
Oh,
non.
Alors
non. À Loos, il paraît qu'on trouve une impasse, ouais. Avec le nom de Blanc-Carrévrard. C'est un peu logique parce que l'atelier de fabrication de ces photographies n'était pas situé à Lille, mais dans sa banlieue. Et à l'époque, c'était Loos. Il est vrai que Blanc-Carrévrard travaillait avec un chimiste de renom, Kuhlmann.
Ah oui, oui. Kuhlmann. Bon, il n'a pas fait que des heureux, hein, quand même. Moi, je me souviens d'une époque où il polluait beaucoup la région, hein. Je peux
ça,
te raconter, c'est, hein, c'est ma vie. Hein.
Oui, mais c'est la première usine de Frédéric Kuhlmann, c'est à Loos. Hein. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque la matière noire. Ça sent pas bon.
Ben oui. Donc le bassin minier, tu sais, où j'habite, ouais. Hein, et où je suis né, hein, oui. Il a beaucoup connu ces vapeurs, cette toxicité répandue dans l'atmosphère, notamment la nuit, par cette entreprise dont je ne parlerai plus du nom. Mais je l'ai un peu dit avant, hein,
ouais,
d'accord
ouais, ouais.
Alors, donc, parlons maintenant de cet événement qui nous a réunis dans un lieu qu'on connaît bien, Radio Campus, hein, puisqu'il s'agit d'une maison grande ouverte, hein, l'auberge de jeunesse de Lille, qui s'appelle Stéphane Hessel. Et donc, Philippe Timmerman, on t'y a retrouvé là-bas, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, 15 jours, allez.
Oui, c'est à peu près ça, oui. Donc, bah, c'est une exposition qui est née, enfin, du moins, le sujet est né pratiquement en Afrique, du moins sur une proposition d'une association d'artistes d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Carrefour de l'Art, donc qui m'a invité à travailler sur la frontière, le concept de frontière, et de réparation des liens humains. Donc, tout de suite, ça m'a convaincu d'y travailler. Et donc, me sont venus à l'esprit, bien sûr, l'époque actuelle, avec les difficultés de circulation des humains, en particulier des humains situés hors des frontières européennes, qui ont pratiquement... pour lesquels c'est très difficile de venir en Europe.
Oui.
Et puis, le concept de frontière m'a ramené aussi vers des images, vers Des tableaux, parce que bon, mes sources d'inspiration sont souvent du côté de la peinture. J'ai pensé à des œuvres de Goya, qui s'appellent les désastres de la guerre. Et puis, au radeau de la Méduse de Théodore Géricault, hein, avec tout ce qui se passe là actuellement, tous ces morts en Méditerranée, mais aussi en mer du Nord. Mmh. Ce qui est absolument scandaleux, hein. Et puis les politiques actuelles xénophobes et racistes qui président beaucoup en Europe et qui empêchent donc toute circulation. Me sont venues aussi l'idée des travaux que je mène depuis 2010. Il y a, je pense, au Joconde. Bon, là, c'était né d'une proposition des hôpitaux de Paris et Assistance publique de Paris de faire un travail sur Paris. Et j'avais, bon, d'abord un peu été réticent. Et puis après, je me suis dit, Paris, c'est le Louvre, c'est la Joconde. Et c'est l'aspect très... la population très variée dans Paris, donc j'ai fait des portraits de Joconde de toutes les couleurs. En plus, c'était le moment où Sarkozy avait lancé cet horrible débat sur l'identité nationale. Ça m'a permis de rappeler que la Joconde était à Paris parce que Léonard de Vinci avait été invité par François Ier. Et que c'est très bien d'inviter des artistes étrangers en France.
Alors c'est vrai que nous en France, on accueille quand même beaucoup d'artistes et des étudiants aussi dans nos écoles. Je pense à l'ESA, Tourcoing, Dunkerque et puis le Fresnoy aussi. Donc de grandes écoles qui accueillent pour une durée d'études parfois assez longue. Et quand ils ont leur diplôme, je crois qu'ils peuvent encore rester 5 ans, ces étudiants, pour mettre en œuvre leur projet. Bon, l'idée étant quand même qu'ils rentrent en Chine un jour, a priori. Mais voilà, donc j'en connais beaucoup, moi, dans la région, qui sont accueillis. Et puis, dans l'autre sens, il y a la Villa Médicis, dont on pourrait parler, puisque j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur des jeunes qui sont dans des écoles, dans des lycées professionnels, dans les métiers d'art, mais qui ne sont pas forcément artistes, mais qui sont des artisans, qui aident à réaliser des objets d'art. Et donc, ils vont être une dizaine de classes à pouvoir aller à la Villa Médicis, passer une petite semaine pour à la fois présenter leurs objets et voir aussi là-bas, puisque la Villa Médicis, qui est à Rome et qui, on peut peut-être dire après, qui est un lieu qui a été acheté par Napoléon quand même, hein, et donc qui est un lieu français là-bas, c'est le palais de la France à Rome. Et donc ce lieu accueille des artistes en résidence pendant une durée d'un an, et là en l'occurrence des jeunes de la région qui vont pouvoir y aller, je crois que c'est au mois d'avril, mai, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a quand même encore quelques passerelles qui existent. Pour ce qui est de la Chine, bien, il y a aussi le fait qu'on puisse y aller 30 jours, sans visa, ce qui est quand même pas mal. Ce serait bien qu'il y ait une réciprocité quand on parle des jeux, de possibilité de circuler. Je pense que c'est un appel du pied intéressant que nous fait la Chine. Après, on peut toujours critiquer le pays, mais sur cet angle-là, je pense qu'elle amène à une nouveauté, c'est-à-dire ouvrir à, je sais pas combien, 50 pays, la possibilité d'y aller en touriste, voilà, pendant maximum 30 jours. Donc cette année, je vous dis tout de suite que j'y serai en avril-mai, si je ne suis pas mort d'ici là, et qu'il n'y a pas une guerre qui se déclare. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même l'occasion d'encourager des pays à s'ouvrir davantage que ce à quoi on assiste en ce moment, un resserrement des réglementations, des législations, un repli sur soi. Voilà, tout ça, ça ne sent pas très bon, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard ?
Je constate, je fais exactement le même constat que Philippe Timmermann, parce qu'on travaille un petit peu à deux sur le plan administratif pour faire venir des étudiantes et des étudiants d'Afrique, et force est de constater que, combien on peut dire, Philippe, depuis 3-4 ans, c'est de plus en plus difficile pour nous, et on a de moins en moins de réponses à nos courriers.
Mmh. Donc le rêve France, ça se termine.
Ben, j'en ai bien peur. Ouais.
Voilà. Et ce ne sera pas forcément mieux dans 2 ans. Je ne sais pas, on verra.
Ouais,
on dit rien.
Conjecture. Mais oui, on est sur un trend.
Voilà. Donc dans tout cela, où est la place du photographe et l'acte de photographier dans cet ensemble-là? Alors ça peut prendre diverses formes, bien sûr. On peut penser aux photographes qui font du journalisme et qui ont besoin de la photo. Bon, à Gaza, c'est compliqué en ce moment, mais il y a d'autres endroits où ils peuvent encore aller faire de la photographie. Il y a aussi les gens qui utilisent la photographie comme média d'expression, et notamment pour traiter des problèmes sociétaux, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui voient plutôt le côté esthétique, avec peut-être aussi, pour d'autres, l'apport des technologies modernes, l'intelligence artificielle, tout ça. Bref, on est quand même dans un moment où ça grouille pas mal, la photographie, et on remet en cause des vieux systèmes, parfois, et on en met en valeur d'anciens, pour les remettre au goût du jour, en disant, tiens, on a inventé ça il y a un siècle.
D'abord, ta question est très, très, très difficile et délicate à traiter, et je dois dire que je ne l'attendais pas. Dire ce qu'est la photographie actuellement, ce serait pour un économiste se poser la question de l'existence d'un marché, par exemple, il y a une offre et une demande. C'est aussi simple que ça. Et du côté de la demande de photographie, c'est pas compliqué. On peut dire que les utilisateurs de photographie sont massivement des gens qui ont une activité de loisir qu'on appelle la photographie. Les statistiques mondiales sont absolument formelles sur la question. La photographie est l'activité de loisir la plus utilisée dans le monde. Chaque jour, c'est plus d'un milliard de photos prises sur cette planète. Mmh. Je sais pas, c'est quelque chose de gigantesque. Il est probable que le chiffre soit supérieur. D'ailleurs, la photographie dépasse même le nombre de vidéos, par exemple, et le nombre, bien entendu, des lecteurs, du livre. On est vraiment au niveau le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que la technologie a changé massivement. Nos téléphones portables, maintenant, embarquent des appareils photos et tout un chacun peut avoir une pratique de photographe, disons plus qu'amateur, banale, quotidienne. Des photographies que l'on prend pour soi, pour les mettre sur les réseaux sociaux, pour déclarer sa flamme ou déclarer un message politique ou sur les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est absolument certain. Ensuite, je pense qu'il y a une couche de la population qui veut un peu mieux. Tu parlais d'art, donc on a encore des restes de ce qu'on a appelé des amateurs photographiques qui existent depuis pas mal de décennies. On parle même d'un siècle. Donc les amateurs de photographie qui se sont longtemps rassemblés dans des clubs, pour reprendre le terme anglais, dans des sociétés photographiques, pour reprendre le terme français, qui sont en perte de vitesse sur le plan statistique, parce qu'il y a de moins en moins de monde dans ce monde des amateurs-là, et pour cause sans doute, c'est que si l'on regarde du côté de ce qui se passe au niveau de la fameuse offre dont je parlais tout à l'heure, disons que les appareils photographiques ont bondi en termes de prix parce qu'ils intègrent de plus en plus de technologies. On est en queue de révolution technologique. On est passé des appareils photo argentiques au numérique, et ce numérique coûte cher, et de plus en plus cher, d'autant plus qu'il embarque cette nouvelle révolution, ce qu'on appelle une révolution, l'intelligence artificielle. Grosso modo, on peut estimer que pour avoir un matériel photographique pour un amateur de bon niveau, on tourne entre 6 000 et 10 000 euros à la base. Mm-hmm. Donc ceci nous éloigne des populations étudiantes, en particulier,
même temps,
je le ressens.
C'est pas plus cher qu'une voiture. Hein.
Ok, mais est-ce que la voiture est un loisir, quelque chose qui... Est-ce que c'est la même chose qu'une télévision ? Enfin, on a l'impression que là, on a un effet de gradation.
Mmh. Disons que la voiture, ça nous transporte, alors que la photo, ça permet à des images d'être transportées, à des visions aussi.
Oui, ou d'être déformées avec l'intelligence.
On peut jouer, hein.
On peut créer, on peut jouer maintenant. D'autant plus que c'est pas, enfin, pour tu as abordé un petit peu le problème de l'intelligence artificielle. Je me souviens, oui, je me souviens d'un étudiant très brillant qui créait une entreprise ici dans la région et qui m'expliquait que l'intelligence artificielle, c'était pas grand chose dans le domaine de la photographie. Lui, il était en train de profiler les chirurgiens de demain. Avec l'intelligence artificielle, la possibilité pour les robots d'opérer. Mmh. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans le même niveau. L'intelligence artificielle, ça consiste à créer un petit peu de photographie, c'est un assistant, quoi.
Donc j'avais interviewé une société de photo, enfin une société, une industrie ou un commerce de photographie qui travaille pour la publicité et qui me disait, nous on gagne à peu près au moins 30% de temps en passant par l'IA pour avoir un résultat qui est présentable au client. Après, c'est vrai que quand on voit ce qui est fait, on peut encore se dire qu'il y a des progrès à faire, mais ça va se faire, il ne faut pas rêver. Il y a beaucoup de choses qui évolue. Je pense notamment à tout ce qui est animation, vidéo, etc. Avec l'IA, on peut créer des personnages, on peut créer des situations. Il y a quand même, pour moi, un développement qui va être très fort de ce côté-là, avec une définition qui va être très, très, très forte et une utilisation. Peut-être même dans les salles de cinéma, on pourra se projeter des films qui ont été faits entièrement par l'IA et avec aucun personnage réel.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais il reste une catégorie dont tu as évoqué un peu l'existence tout à l'heure. C'est qu'on a des artistes photographes qui représentent une frange certainement minime des utilisateurs de photographie, mais qui persistent dans l'idée que la création artistique ne peut pas être confiée à l'intelligence artificielle et que ça demande un travail. C'est le cas de l'exposition que vient de faire Philippe Timmermans. Je vois mal l'intelligence artificielle imaginer ne serait-ce que le quart de ce qu'il nous présente dans son exposition. À l'auberge de jeunesse de Lille.
Alors, pour mettre en valeur les photos et les photographes, il y a des expositions aussi qui existent. Je pense à cette quinzaine de la photographie de Bruxelles, par exemple.
Oui, et évidemment, en ce moment, c'est la quinzaine de la photographie à Bruxelles, où intervient un membre de la Société photographique des universités de Lille, donc autant en parler. Il s'agit de Jean-Louis Silence, qui a la chance d'être exposé avec 27 autres photographes dans un lieu glorieux de Bruxelles, où l'idée est de faire une synthèse de ce qui se fait dans ce pays, la Belgique, mais dans le domaine de la créativité.
Voilà, donc j'ai pu un peu suivre son travail. Il a présenté plusieurs expositions dans la région de Lille, notamment. Oui. Donc lui, il a son style à lui, personnel. C'est un photographe professionnel qui utilise maintenant encore des techniques qu'il a apprises il y a longtemps, mais qu'il peut adapter aux besoins de ses expositions.
Oui, c'est quelqu'un qui a évidemment un métier important, enfin grosse connaissance dans le domaine de la photographie. Il a fait la comparaison entre les technologies actuelles et ce qu'il a vécu il y a quelques décennies, et il en a tiré l'idée qu'il resterait, quoi qu'il en soit, un photographe humaniste, tel qu'on pouvait les voir dans les années 60 et 70 en France, et qui resterait humaniste avec un regard des plus tendres sur ce qui se passe dans les rues d'une ville.
Qui pourrait-on associer, quand on parle de photographe humaniste, à un mouvement, un courant de ce type? Dans les photographes anciens, on va dire, ceux qui, du XXe siècle, par exemple.
Oh, les photographes français, les humanistes français. Tu as certainement des noms, Philippe.
Oui, mais il y en a plein. Il y a Cartier-Bresson,
Bouba,
Huillier-Ronis, etc. etc.
Oui.
Donc des gens qui sont restés célèbres et appréciés, notamment par le milieu de l'art. Enfin, quand je dis milieu de l'art, je pense aussi aux galeries et au business de l'art.
Oh, bien sûr, à ce business-là, mais qui a encore... Il y a encore des personnes qui pensent que l'humanisme n'est pas mort en définitive et qu'on va trouver dans la rue quelque chose qui mérite d'être montré en noir et blanc. je dis bien en noir et blanc et pas en couleur, des choses qui, encore une fois, qui sont tendres.
Alors, c'est vrai qu'on l'a tous fait.
Ou amusante.
Bernard, c'est passer des photos couleur en noir et blanc, et selon le sujet, ça peut vraiment apporter un autre regard sur la scène, la situation. Ça crée des impressions qu'on ne peut pas avoir en couleur, pour être clair.
C'est clair. C'est la raison pour laquelle Jean-Louis Salens continue de travailler avec un appareil tout à fait contemporain, mais qui est bridé et qui est en noir et blanc. Mmh. Donc il a la certitude qu'il n'aura pas la photo qu'il a dans la tête en couleur.
Ça veut dire qu'il a l'œil déjà aiguisé pour concevoir la photographie en noir et blanc.
Il conçoit toujours, a priori, sa photographie en font foi ses carnets, généralement. Il n'attend pas le moment décisif, il le prépare. Mmh. Et c'est préparé par ce qu'il appelle ses crobards.
Alors c'est vrai que les peintres, par exemple, font des croquis, ils ont des carnets, et après ils passent à la phase, on va dire, de l'exploitation de l'œuvre au travers de la peinture sur toile. Donc tout ça, on peut imaginer la même logique dans la photographie.
C'est exactement la même logique, c'est ce que disait un Lillois appelé Pierre Dubreuil dans ses notes à la fin du 19e siècle. Il n'y a jamais de place au hasard en photographie. Une bonne photographie est prête longtemps à l'avance. Il donne un exemple. Il travaillait en été les photographies qu'il ferait en hiver dans les villes belges. Mmh. 6 mois à l'avance.
Et donc ce Pierre Dubreuil, on a eu l'occasion de le voir en exposition, hein, parce que malheureusement il est décédé. Mais au Palais des Beaux-Arts de Lille, il y a combien, 1 an, 2 ans?
Oui, 1 an et demi. Ouais. Oui, non, 2 ans, oui, maintenant, deux ans. Ouais. Oui, tu as raison.
Et donc, l'occasion de voir des paysages, c'est-à-dire qui accrochent le regard aussi. Hein.
Alors, des paysages dans sa partie de jeunesse, quand il était français, quand il a changé de nationalité, il est devenu belge. Et a beaucoup travaillé l'abstraction.
Et après, on peut dire qu'une partie de son œuvre a disparu pendant la guerre, il me semble.
Ah, complètement disparu. Hein. Il a fait don de son fonds, un don moyennant finance quand même, donc
à l'entreprise
Agfa Gewart, qui a été... alors, il s'est passé une chose incroyable, les Malles sont arrivés dans cette entreprise belge, et le lendemain, il y a eu un bombardement allemand, et tout a été détruit. Tout.
Bon. Ça donne aussi l'idée de la fragilité des œuvres en temps de guerre, notamment, et le fait aussi qu'il y ait des musées comme le Louvre, par exemple, qui se préoccupent de la préservation de ces œuvres en zone de guerre, et donc il y a un espace qui prévoit de les héberger le temps nécessaire.
Oui, oui. Je pense aussi au cabinet des estampes, à la Bibliothèque nationale, qui a fait un travail tout à fait inouï sur la conservation des photographies en France.
Bon, après, aucun musée n'est à l'abri d'un vol, bien sûr.
Je dirais que la photo doit moins attirer que
les bijoux.
Que des bijoux.
Bon, peut-être parce qu'elle peut être tirée, justement.
Parce qu'elle peut être reproduite. Sa propriété, c'est qu'elle peut être reproduite et reproduite et reproduite à l'infini.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des photographies qui soient des faux, par exemple?
Ah ben là, tu me laisses sans voix.
C'est priorité à l'imagination aussi. Hein. Des faussaires en photographie, tu vois, jusqu'où on peut aller. Hein.
Non, je vois pas l'intérêt.
Donc après, il y a des photographies qui sont photographiées et éditées, et puis tirées en un certain nombre de tirages avec des numéros.
Oui.
Tu peux expliquer un peu la logique,
hein? Non.
C'est une logique financière. Hein.
Oui,
enfin, c'est le marché de l'art.
C'est le business, bien sûr. Ouais. Donc en faisant une édition limitée, c'est un peu comme les tirages d'estampes.
Ouais,
tu as un certain nombre de numéros.
Ouais.
Et on a. Qu'est-ce qu'il m'avait dit une fois cette chose, mon œil. Mon œil. Je veux dire, tu n'as pas de possibilité vraiment de garantir qu'il n'y a eu que 10 tirages.
Alors après. Il y a une chose qui est un peu différente avec les estampes, c'est que les estampes, quand tu les tires, c'est une reproduction, etc., et tu as une dégradation du tirage, tu vois? Si, normalement.
Oui. Ouais.
Et au bout de 100, par exemple, on les numérote de 1 à 100 en commençant par la dernière. Mmh. Donc quand tu as le numéro 1 d'une édition, c'est pas la meilleure. C'est la centième la meilleure. C'est bon à savoir. Ça, j'ai appris ça tu vois, en interrogeant un spécialiste, un artiste. Voilà, donc on en découvre tous les jours. Voilà, donc la photo, on n'a pas fini d'en parler.
Non, mais en revanche, je peux dire quelque chose. Il peut exister des produits photographiques uniques. Il suffit simplement d'imaginer des procédés qui ne permettent pas la reproduction.
Le daguerréotype, déjà.
Voilà, commencer par l'invention de la photo, le daguerréotype est unique, par définition.
Peut-être présenter la technique, Philippe, du daguerréotype, rapidement.
C'est une plaque d'argent qui est sensibilisée par... je connais pas exactement, hein, mais je crois que c'est sensibilisé par de l'iode, ensuite exposé, ensuite révélé avec des vapeurs de mercure, d'où le danger de l'utilisation de ce procédé. Je voudrais intervenir là par rapport à ce que vous au débat de tout à l'heure par rapport au numérique. Il y a quand même un peu de résistance. Hein. Il y a pas mal de gens qui utilisent des techniques. Il y a eu de multiples techniques à la naissance de la photographie. Hein, toute la deuxième moitié du 19e siècle a vu naître plein de procédés. En particulier, par exemple, le procédé que j'utilise, la cyanotypie, hein, qui est basé sur la sensibilité à la lumière de certains sels de fer, qui m'a semblé évident d'utiliser quand je suis allé faire une première résidence à Lomé au Togo en 2021. J'ai travaillé sur l'empreinte, la trace, hein, avec des lycéens, des étudiants, et d'autres artistes qui participaient à l'événement. Donc j'ai utilisé à la fois de la peinture, mais aussi beaucoup la cyanotypie. Parce qu'il faut juste les sels de fer sensibles à la lumière, les badigeonner sur un support absorbant. Et ça, on le fait dans une pièce un peu sombre, pas directement au soleil. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le support qu'on a préparé, une fois qu'il est sec, on le met en contact avec ce qu'on veut reproduire. Bon, ça peut être des végétaux, ça peut être un peu n'importe quoi. On l'insole et après, il n'y a plus qu'à laver. Donc c'était un procédé tout à fait adapté à Lomé, par exemple.
Voilà, on pourrait bien sûr revenir sur un certain regain d'intérêt de la photographie argentique, hein. Peut-être, ça existe encore.
Ok, certain,
hein.
En particulier à l'université.
Bah oui, c'est
à Lille,
ce que je pense.
C'est évident.
Il y a des ateliers qui sont organisés autour de ça, pas encore cette année ?
Connaissance, on a une forte poussée de la part de jeunes filles et de jeunes gens, surtout des jeunes filles.
Bon.
Mais à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'expérience menée du type atelier photographique dédié ou workshop.
Voilà, donc j'imagine que de la demande naîtra la possibilité de réaliser cet atelier.
Tu sais que tu me donnes une idée. Là.
Hein ouais. Là-dessus, c'est des vœux comme ça qu'on envoie pour 2026, en espérant que ça s'améliorera par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Mais je vous souhaite en tout cas de belles expositions, de belles aventures photographiques.
Merci.
Un mot sur 2026, c'est le 200e anniversaire de la photographie.
Eh bien voilà, on fêtera ça quand vous voulez alors. Merci beaucoup. À bientôt.